Voici une traduction en français de la conférence enregistrée numéro 6201C24 SHSBC 104 intitulée L'éducation et la duplication. Il s'agit d'une conférence donnée par Elron Hubbard le 24 janvier 1962 aux étudiants du St. Hill Special Briefing Course. Copyright 1962-1982, Elron Hubbard, tout droit mondial de reproduction réservé. Merci beaucoup. Je ne mérite pas vos applaudissements. J'ai été odieux avec plusieurs d'entre vous au cours des deux derniers jours, très odieux, avec de bons résultats. Bon, quel jour sommes-nous ? Le 24 janvier, AD12, 1962, l'année du labeur, surtout le vôtre. Très bien. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Je vous donnerai cette conférence assis, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. J'ai de très très bonnes nouvelles pour vous, d'excellentes nouvelles. Et c'est le fait que si on vous tape sur la tête, qu'on vous torture, qu'on vous accable de sarcasme, qu'on vous harcèle et qu'on vous maltraite dans tous les sens, eh bien, vous finissez par vous décider à... Bon, vous critiquez Ron, et puis ces critiques ne donnent rien, et vous y mettez un terme, et vous vous dites alors... Bon, eh bien, s'il fait tout ce foin à propos de ce procédé, peut-être que cela veut dire qu'il y a une façon correcte de l'appliquer. Et vous essayez pendant un moment de l'appliquer, et il ne se passe pas grand-chose. Et si à ce moment-là, on vous harcèle et on vous tape sur la tête un peu plus, eh bien vous décidez alors à l'appliquer correctement, et puis brusquement, vous prenez conscience que ce procédé marchait bel et bien. Et c'est exactement ce qui vient de se produire en cette année 1962, en ce jour mémorable de notre Dianétique. C'est exactement ce qui vient de se produire. Plusieurs d'entre vous ont découvert, au cours de leur dernière séance, que la 3D criss-cross marchait à merveille. Ils viennent juste de le découvrir. Complètement nouveau pour eux. Certains d'entre vous n'ont pas encore fait cette découverte, mais beaucoup, la plupart de ceux qui avaient des problèmes avec ce procédé, ont soudain compris qu'il y avait quelque chose là, que ça marchait vraiment, que la séance se déroulait à 100 à l'heure. Et brusquement, tout est rentré dans l'ordre. Maintenant, l'étudiant auditeur chevronné, qui avait déjà beaucoup d'entraînement, et je dois dire que l'expérience ressort avec ce procédé, a obtenu des résultats sur le champ avec la 3D criss-cross. Dès qu'on lui a présenté la 3D criss-cross, il a obtenu des résultats, ce qui est très très intéressant, vous voyez. Il a lu rapidement, il a dit c'est bien, il s'est mis à faire le listing et tout le reste, et paf, les résultats sont apparus. Mais ceux d'entre vous qui venaient de commencer le tout nouveau cours classe 2B, avec toute la nervosité que cela implique, n'ont pas été autant à la hauteur. Et pendant deux semaines, ou presque, vous avez pataugé et vous êtes cassé le nez. C'était plutôt sinistre à voir. J'entends par là que j'ai vraiment souffert pour vous. Je n'ai pas souffert pour le préclair. Je peux toujours remettre le PC sur pied. Quand je sais que je peux remettre le PC sur pied, je ne m'inquiète pas particulièrement de son sort. Mais j'ai souffert pour le pauvre auditeur qui était assis là, qui faisait exactement ce qu'on lui avait dit de faire, même s'il le faisait à l'envers. Avec l'oncle Ron, qui prenait tout sur le dos quand les choses tournaient mal. Les choses tournaient mal, probablement parce que, soi-disant, le procédé ne marchait pas. Et puis soudain, l'auditeur s'est réveillé, a décidé de faire les choses correctement, et ensuite il y a eu la deuxième phase. Il a découvert que le procédé marchait à merveille. Eh bien voilà une sacrée victoire. C'est une victoire pour moi. Et cette victoire consacre la valeur de la méthode d'éducation que j'ai employée ici, où tout avait commencé dans l'apathie. Vous voyez, vous trouvez confronté à quelqu'un qui est plongé dans l'apathie. De toute façon, rien ne marche et il est impossible de faire les choses correctement. Et même si vous les faisiez correctement, il ne se passerait rien parce que c'est impossible de faire les choses correctement vu qu'il ne se produirait rien si vous les faisiez correctement. Eh bien, il est parfois nécessaire de balancer une grenade dans ce type particulier d'activité et de vous mettre à aboyer violemment, voyez-vous, Audite, regarde ici. Tu n'écris que d'un côté de ton rapport d'auditeur. La personne dit, ah ouais, bien sûr que je n'écris que d'un côté de mon rapport d'auditeur. C'est ce que font tous les auditeurs, non? Oui, c'est vrai dans la plupart des cas, mais toi, tu ne devrais pas. Tu aurais dû avoir l'intelligence de te dire qu'avec ce procédé, on n'écrit pas d'un côté. Même si ça n'a jamais été publié. Donc tu aurais dû le savoir. Soyez exigeant. L'étudiant aurait dû le comprendre par télépathie, ou ça aurait dû lui pénétrer par les pores, ou quelque chose comme ça. Mais qu'importe ta méthode. Eh bien voilà qui s'applique parfaitement à l'entraînement des auditeurs classe 2. Quand vous commencez à entraîner des auditeurs classe 2, vous devriez attribuer à cette méthode d'éducation la valeur qu'elle mérite. Et voilà un sujet sur lequel je pourrais vous donner une petite leçon, et le titre de cette leçon serait « Faites un foin de tous les diables ». Maintenant, il y a deux méthodes pour tirer quelqu'un de l'apathie. Vous voyez, le gars ne sait pas, il est impossible de faire les choses correctement, et de toute façon, ça ne donnerait probablement aucun résultat. Eh bien, il y a deux façons d'aborder le problème. L'une consiste à faire de la personne un auditeur, et l'autre consiste à l'auditer. Maintenant, bien sûr, la méthode employée pour former des auditeurs diffère complètement de celle employée pour auditer les PC. Nous employons deux routes. Pas forcément pour l'amélioration des cas, mais pour mener notre tâche à bien. Évidemment, le produit net de ces deux routes, c'est l'amélioration de tous les cas. Mais ce que je veux dire, c'est que nous nous servons de deux routes et que vous devez bien faire la distinction entre elles. La première de ces routes, c'est celle de l'auditeur. Et nous avons toujours eu quelques règlements pour régir l'auditing. Et chaque fois dans le passé que ces règlements n'ont pas été en vigueur dans les académies, celles-ci produisaient de mauvais auditeurs, des auditeurs minables. Et c'était parce qu'elles se servaient de l'approche suivante. Eh bien, nous savons que vous n'arrivez pas à auditer parce que vous avez un cas, et nous allons essayer de rafistoler votre cas, et si nous arrivons à vous faire progresser du point de vue cas, peut-être serez-vous capable d'auditer un jour. Ce genre d'approche ne marche pas quand il s'agit de former des auditeurs. Voyez-vous, si nous partions du principe que l'auditeur a un cas, personne ne serait jamais libéré de ses chaînes sur cette planète. Vous voyez ce que je veux dire? Par conséquent, ce n'est rien d'autre qu'un arbitraire émis par quelques râleurs. Comprenez, cette donnée ne peut pas être vraie. Il ne s'agit même pas de savoir si elle est vraie ou non, c'est tout simplement qu'elle ne peut pas être vraie. C'est illogique. Elle ne peut pas être vraie, point final. Autrement, vous ne libéreriez jamais personne de quoi que ce soit, vu qu'il n'y aurait personne pour auditer qui que ce soit. Et en effet, après avoir observé les académies qui ont appliqué cette idée au cours de toutes ces années, par exemple, le directeur de l'entraînement pensait que si nous auditions tous ces étudiants et que d'une façon ou d'une autre nous leur donnions quelques petits gains du point de vue cas, que nous les mettions en état de confronter leur PC et que nous faisions ce qu'il faut pour qu'ils ne soient pas entravés par leur cas, eh bien, nous pourrions en faire des auditeurs. Et ça peut prendre des proportions du genre, si nous ne laissions entrer dans l'académie que les gens de valeur, nous ne savons pas qui sont ces gens de valeur, ils se tapissent probablement sous les rhododendrons ou quelque chose comme ça, et jusqu'à ce jour, ils ne semblent toujours pas avoir mis les pieds dans une organisation, ces gens de valeur. Si nous pouvions faire venir les gens de valeur, voilà l'autre chanson que vous entendez. Mais ce n'est qu'une dégradation mineure. Juste après, vous avez cette autre chanson jouée sur un piano mécanique désaccordé. Si nous pouvions auditer tous les cas de l'académie, ils seraient alors tous capables d'auditer. Et ils ont évidemment prononcé une absurdité. Voyez-vous, s'il n'y a personne pour auditer tous ces cas de l'académie, comment diable allez-vous faire pour les auditer? Mais ce n'est plus une académie que vous avez, mais un HGC. Et c'est pourquoi cette philosophie s'écroule très rapidement d'elle-même. Donc, très tôt, je pense que c'était aux alentours du 7e ACC, j'ai introduit la philosophie suivante dans l'entraînement des auditeurs. Et cette philosophie marche, n'est pas forcément vraie, elle n'est pas forcément facile à appliquer, on ne peut pas dire qu'elle soit gentille, sympa ou douce, elle marche, un point c'est tout. Et dans la mesure où elle marche, on peut dire qu'elle est vraie. Mais elle n'est vraie que parce qu'elle marche. Et cette philosophie est la suivante. Les auditeurs n'ont pas de cas. Point final. Voilà la chose sur laquelle nous devons insister. Et nous allons même plus loin. Si l'auditeur est encore tiède, et que vous pouvez voir de la buée sur une glace placée devant sa bouche, c'est qu'il est en état d'auditer. Si on peut le traîner dans sa chaise et lui mettre un électromètre entre les mains, il est en état d'auditer. Nous sommes, on ne peut plus, extrêmes. Il pourrait avoir perdu les deux jambes dans un accident de voiture, ça ne fait rien, il est en état d'auditer, point final. C'est comme ces nations qui en sont réduites, avoir des conscrits de 14 et de 72 ans, vous savez. Quiconque ose sortir de l'hôpital, quiconque ose se balader à proximité de l'endroit où les officiers sont en train de rassembler de nouveaux régiments, est instantanément déclaré apte au combat. Vous voyez, un grand coup de tampon dans le registre de conscription, apte au combat. Bon, ce n'est pas de là que nous tirons notre principe, mais ça vous donne une idée de ce que je veux dire. Et puis le temps passe et la nation redevient petit à petit capable de travailler, et c'est alors qu'on dit « cette personne n'est pas en état de combattre, elle devrait se faire auditer ». Mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait suivant. Nous ne sommes pas une nation, mais nous sommes certainement un peuple. Et l'exemple que je vous ai donné est tout à fait approprié. Nous ne sommes pas dans une situation aujourd'hui où nous pouvons dire « prenons cette personne et auditons-la pendant un temps ». Et peut-être qu'elle apprendra à auditer un jour. Si nous parvenons à la débarrasser de son cas, peut-être sera-t-elle capable d'auditer. Nous ne sommes pas dans une situation où nous pouvons faire ce genre de choses. Nous ne disposons pas d'un réservoir de gens suffisant, et nous n'avons pas tellement progressé dans la société. Donc non seulement cette donnée a été vraie dans le passé, mais elle continuera de l'être pendant un bon bout de temps encore. Maintenant, chose bizarre, cette philosophie marche. Elle marche à la perfection. Elle marche, et aujourd'hui, ça a été l'une de ces journées où j'ai vu cette philosophie marcher. Certaines personnes du cours classe de B, qui sont très très loin de l'état de clair, et qui sont encore à 1000 lieues de pouvoir comprendre ce que c'est, je vous parle de cas maintenant, vous voyez, uniquement de cas en très mauvais état, eh bien ces personnes ont été amenées à assimiler les données, à appliquer le procédé de façon standard et à se rendre compte, finalement, que ce qu'elle faisait apportait de très beaux gains. Des gains très très puissants au PC. Et à se rendre compte aussi qu'elles étaient capables d'administrer le procédé, ce qui est d'une importance capitale. Donc aujourd'hui, ça a été une journée où cette philosophie a marché. Bon, je ne veux pas dire par là que vous êtes dans un sale état. Je dirais plutôt que lorsque vous vous serez fait auditer un peu, eh bien l'auditing vous aura permis de progresser jusqu'à un niveau où vous serez dans un sale état. Comparez l'état où vous êtes à l'état où vous étiez il y a 1 ou 2 billions d'années, ou il y a 500 millions d'années, je ne sais quel chiffre outrageux. Vous n'êtes pas tellement en bon état ces jours-ci, vous savez. Et si vous voulez prendre quelqu'un et commencer à vraiment en faire un être, je ne parle pas d'un être humain. N'importe qui est capable de faire un être humain. Vous prenez simplement quelques chocs électroniques et quelques implants que vous infligez à la personne, et vous détruisez toute son autodétermination, et puis vous détruisez toute la détermination qui lui vient d'autrui, et puis vous le faites aller et venir comme une balle de ping-pong entre l'autodétermination détruite et la détermination d'autrui détruite, et ensuite vous lui réglez son compte en lui faisant accumuler toutes les masses et en ne lui permettant jamais d'aziser quoi que ce soit. Et vous avez un être humain. Il n'y aurait aucun mérite à faire un être humain. Allons à l'étage d'au-dessus, faire un être opérationnel, un être en état de marche. Avoir pour objectif un être opérationnel et progresser à pas de géant dans cette direction. Eh bien, c'est ce qui s'est produit. C'est ce qui vient de se produire au cours des 2 derniers jours. Nous avons été témoins de la chose. Cela me rend très heureux parce que c'est beaucoup plus significatif que vous ne le penseriez à première vue. Ça signifie en effet que vous êtes capable de vous débrouiller tout seul. Maintenant, nous attendons de quelqu'un qui a reçu un entraînement très intensif pendant 6 mois d'être capable de prendre un procédé et de l'administrer. Mais j'ai été très fier de voir les étudiants qui sont là depuis longtemps prendre la 3D criss-cross et l'administrer correctement du premier coup. Eh bien, c'était une petite victoire en soi. Mais elle ne parle pas particulièrement en faveur de la philosophie que je vous ai exposée, étant donné que ces étudiants auditeurs expérimentés avaient déjà eu de bons gains et qu'ils avaient parcouru pas mal de chemin du point de vue K. Par contre, les autres étudiants qui venaient de commencer le cours classe 2B n'avaient pas encore eu de gains très significatifs du point de vue K. Et ils ont réussi à administrer le procédé. Et voilà un fait très important. Donc voyez-vous, cette philosophie marche, et c'est une philosophie bien déterminée. S'il est encore tiède, il peut auditer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez exercer sur un individu une pression telle, et lui donner un entraînement tel, qu'il finit par être capable d'administrer convenablement une action au PC, et par obtenir un résultat d'une très grande valeur. Eh bien, c'est une victoire. Parce que si la chose n'était pas possible, nous, en tant que peuple, n'atteindrions jamais notre objectif. Ce serait carrément impossible. Un point, c'est tout. Il y aurait quelques gars capables qui finiraient très vite sur les genoux à force d'auditer 7h30 par jour. J'ai déjà réprimandé 2 ou 3 diplômés de Saint-Hilles qui, une fois rentrés chez eux, se sont soudain mis à auditer comme des fous, 7h30 par jour, ne faisaient rien d'autre. Ils se sont pas vraiment donné la peine d'entraîner des gens ou de pousser l'entraînement. Mais simplement auditer, auditer, auditer. Eh bien, ils ne pourront pas auditer suffisamment de gens pour apporter un changement appréciable dans la société. C'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Maintenant, si vous regardez autour de vous, vous constaterez qu'il n'y a pas sur Terre en ce moment suffisamment d'auditeurs pour donner suffisamment de séances à suffisamment de gens et nous permettre ainsi de faire un pas en avant appréciable dans la société en général au cours du siècle à venir. Les chiffres sont contre nous. Si vous ne formiez plus un seul auditeur, et que vous preniez simplement tous les auditeurs dont nous disposons en ce moment, et que tous auditaient comme des fous 7h30 par jour pendant 10 ans ou quelque chose comme ça, bien faites le calcul et comparez ce nombre d'auditeurs à la population mondiale. C'est la goutte d'eau dans l'océan. C'est un chiffre minuscule, décourageant. Et si nous n'entraînions plus le moindre auditeur, les auditeurs existants finiraient les bras en croix très longtemps avant d'en avoir terminé avec la moitié de la population de New York. Voyez, les chiffres sont contre nous. N'allez pas croire qu'avec votre auditing, vous ne pouvez pas causer de changement dans la société. Il ne fait aucun doute que vous le pouvez. Aucun doute. Mais vous créeriez une société de riches et de pauvres. Une société comprenant une aristocratie et des esclaves. Ce serait inévitable. Parce que vous pourriez évidemment prendre des gens ici et là et les mettre dans une condition superbe et ne jamais renforcer cette condition en les entraînant. Oh oui, c'est sûr, ils ont une grande sphère d'influence et ils vont accomplir des choses, ça c'est sûr, mais je peux vous assurer qu'ils ne se laisseront pas tous terrasser par ce mal particulier dont je souffre, à savoir l'homme doit être libre. Même après que vous les aurez audités, ils ne souffriront pas tous de cette maladie particulière, ça je peux vous l'assurer. Ça ne leur arrivera pas. Et au bout de 10 ou 20 ans, ou quelque chose comme ça, ils commenceront à s'impatienter un peu, on aura déposé suffisamment de victimes sur leur pas de porte pour qu'ils commencent à sortir les pileries et les fouets, et vous auriez soudain 2 ou 3 classes sociales. Vous auriez le clerc et l'esclave. Il y aurait une espèce de ligne de démarcation dans la société, et la chose s'imposerait d'elle-même. Voilà en fait une direction très dangereuse, parce qu'elle a toujours mené les civilisations au déclin et au chaos. Une civilisation composée de maîtres et d'esclaves ne réussit pas. Je peux vous assurer qu'elle ne réussit pas. Une telle civilisation n'a jamais réussi et ne réussira jamais. Ce genre de civilisation a un certain attrait et peut avoir des côtés pratiques, mais elle ne réussit pas. Elle ne dure pas très longtemps et les gens ne s'en trouvent pas mieux. Donc voilà un problème qu'il est intéressant de considérer à long terme. Très peu d'entre vous regardent la scientologie à long terme. C'est à moi que vous en laissez le soin dans une large mesure. Eh bien, je vous en remercie, mais quand je regarde dans ma boule de cristal pour voir ce qui va se passer d'ici 100 ans, je vois un certain nombre d'images et d'aspects de ce qui pourrait finalement se produire. Et ne croyez pas que vous puissiez lancer une bombe de cette force et de cette puissance sur une planète comme celle-ci sans créer un effet. Si cela s'avérait plus pratique, cet effet pourrait être lent. En fait, sa vitesse est déterminée non pas par l'inertie des masses, mais par l'efficacité avec laquelle vous faites ce que vous faites. Et vous ne pouvez pas lâcher une bombe comme celle-là dans une société ou un monde de ce genre ou de cette taille sans causer de répercussions qui s'entendront encore dans un siècle. Vous les entendrez encore retentir quand cette planète sera devenue une boule de billard. Or, il se pourrait qu'elle devienne une boule de billard plutôt que vous ne croyez. Mais même si vous allez sur une autre planète, vous n'oublierez pas tous patientologie. Donc voyez-vous, cette bombe, nous ne l'avons pas lancée silencieusement ou sans créer d'effet. Je ne suis pas en train de déprécier ce que vous, en tant qu'individu, pouvez faire. Mais si vous voulez que le travail soit fait de A jusqu'à Z, ou qu'il soit fait avec efficacité, alors il faudra le faire plutôt rapidement. Et en faisant le travail relativement vite, vous éviterez un grand nombre de cataclysmes qui pourraient se produire avec l'entrée en scène de la scientologie. Autrement dit, plus vite vous ferez le travail, mieux il sera fait. C'est comme lorsque vous auditez un PC. Lorsque vous voyez un PC, vous voyez le monde entier. Le PC est le microcosme, et le monde est le macrocosme. Et ce qui arrive au PC, vous savez que si vous l'auditez lentement et médiocrement, il va être patraque. Et puis il va aller un peu mieux et dire au bout de 2 ou 3 jours, peut-être que j'y arriverai, peut-être que blablabla. Et puis soudain, il ne se sent pas trop bien, il n'a pas vraiment obtenu de résultats et son allure ralentit. Il rétrograde en 3e et abandonne plus ou moins la partie, et ainsi de suite. Eh bien, ces ralentissements et ces accélérations seraient ceux de la civilisation dans laquelle nous vivons si nous n'abordions pas le problème avec efficacité, avec une grande efficacité. Et cette efficacité consiste en partie à former assez d'auditeurs. Vous n'êtes pas assez d'auditeurs. Vous n'êtes tout simplement pas assez. C'est tout. Il n'y a pas assez d'auditeurs, ce n'est pas particulièrement un problème de nombre que nous heurtons ici, mais quand je dis auditeur, j'entends quelqu'un qui ne fait rien d'autre qu'auditer. Vous devez introduire dans votre répertoire l'aptitude à former des auditeurs. Et alors vous serez assez d'auditeurs. Alors vous serez assez d'auditeurs, voyez. Rien que les gens dans cette pièce seraient suffisamment d'auditeurs s'ils formaient des auditeurs. Si vous faites votre travail à la perfection et si vous êtes capable d'apprendre à un auditeur à auditer à la perfection, voyez, si en plus vous êtes capable de faire cela, eh bien vous vous retrouverez avec un nombre suffisant d'auditeurs. Et le travail deviendrait faisable. Il serait faisable. Mais c'est le seul moyen. Moi-même, il m'est arrivé de rouler les mécaniques mentalement, de me dresser, de présenter ma poitrine aux diatribes et aux caprices du sort et du destin en disant « En voilà assez, je peux faire tout ça sans l'aide de qui que ce soit tout en faisant le poirier. Pas besoin d'aide, j'y arriverai les doigts dans le nez. » Et ce jour-là, j'avais envie de jouer les durs. Mais avant que midi ne sonne, je n'avais plus tellement envie de jouer les durs. Maintenant, vu mon éducation et ma formation particulière, je devrais peut-être, ce n'est pas forcé, mais je devrais peut-être avoir plus de raisons que vous de me croire capable de faire le travail tout seul, voyez. Il m'est arrivé d'accomplir certaines tâches tout seul, ce n'était pas forcément des tâches faciles, bon, je m'en suis bien tiré, mais je ne pense pas pouvoir faire ce travail-ci tout seul. Pas le même genre de travail, voyez. C'est un travail de longue haleine. Il embrase bien plus de vie et d'être que tout ce qui a pu être tenté dans ce secteur de l'univers sur une très très longue période de temps. Eh bien, mieux vous ferez le travail, plus vite vous le ferez, plus vous le ferez avec efficacité, et plus notre progression sera aisée. Et vous êtes donc en train d'apprendre à auditer, vous êtes en train d'apprendre à auditer, vous faites des progrès, vous faites de très très bons progrès. Nous ne disposons pas de beaucoup de moyens ici pour vous apprendre à former des auditeurs, mais en vous apprenant à auditer, nous vous donnons à coup sûr le modèle à suivre et vous saurez comment vous y prendre avec les autres quand vous leur apprendrez à auditer. Et peut-être tirerez-vous une leçon de quelques-unes des erreurs que nous avons commises. Mais ne cherchez pas à vous montrer gentil. Ne cherchez pas à emprunter une direction du genre « si nous l'auditons, il sera capable d'auditer ». Vous n'y gagnerez rien. S'il est en vie, il peut auditer. Il est venu au cours de PE, il a longtemps été membre de la science chrétienne jusqu'au jour où il a eu tant d'overtes contre la science chrétienne qu'il est devenu rosicrucien, et puis il a eu tant d'overtes contre la rose-croix qu'il ne lui restait plus que la solution de devenir théosophe, et il est arrivé chez vous pour prouver que la scientologie ne marche pas. Eh bien, vous pouvez en faire un auditeur. Vous pourriez lui apprendre à auditer. Ce serait tout à fait possible. Mais voilà qui nous donne une ligne de démarcation. Pourquoi avoir tous ces problèmes quand vous formez un auditeur? Pourquoi vous compliquez la vie à ce point quand vous apprenez à auditer à quelqu'un? Non, il y a des gens autour de vous, il y a des gens dans votre entourage immédiat à qui vous pourriez tout de suite apprendre à bien auditer. Et c'est à ces gens-là qu'il faut consacrer beaucoup de temps. C'est à eux qu'il faut consacrer beaucoup de temps parce que si vous en faites de bons auditeurs, ils pourront bien sûr, à leur tour, former d'autres auditeurs. Et il est préférable d'avoir, en ce moment, vu l'état des choses, un nombre appréciable de super auditeurs qu'un nombre énorme d'auditeurs très médiocres. Vous voyez, c'est mieux. Et vous regardez la classe et vous vous demandez parfois « À qui vais-je consacrer mon temps ?» Eh bien, le réflexe naturel, c'est de choisir cet oiseau que je viens de vous décrire, qui avait tant d'overtes contre la science chrétienne qu'il est allé chez les rosicruciens, a eu tant d'overtes contre la rose-croix qu'il est devenu théosophe, et a atterri chez vous pour prouver que la scientologie ne marche pas. Eh bien, malheureusement, vous pourriez commettre une très grave erreur. Et savez-vous que les instructeurs la commettent? Même ici, il arrive parfois qu'un instructeur s'aperçoive qu'il est en train de la commettre. Heureusement, il s'en aperçoit. Il est tellement crispé par la façon dont la personne audite, qu'il lui consacre plus de temps qu'à l'auditeur capable, à qui il suffirait un petit peu plus de coaching pour faire du très bon travail. Et au lieu de s'occuper de lui, il consacre un temps énorme à cet abruti complet et exerce une pression énorme sur lui pour essayer de l'amener à un niveau de médiocrité minimum. Rappelez-vous cela, quand vous formez les auditeurs. Consacrez la plus grosse partie de votre temps aux gens capables. Voyez ? C'est comme ça qu'il faut procéder. Les autres, laissez-les poursuivre à leur allure. Laissez-les continuer à leur allure. Ils ont une certaine vitesse d'assimilation, ce qui ne veut pas dire que vous les laissez tomber. Vous ne devez pas les laisser tomber. Oh que non, absolument pas. Vous pourriez les mettre dans un cours d'un niveau inférieur à celui qu'ils étudient, par exemple, mais vous ne les laissez pas tomber. Ils avancent péniblement à une certaine vitesse, mais s'ils avancent à cette allure, ce n'est pas à cause de ce que vous essayez de leur enseigner. Ça n'a pas grand-chose à voir. C'est tout simplement qu'ils peinent. Dire qu'il faut tant de temps à quelqu'un pour apprendre quelque chose, ce serait une déclaration hasardeuse. C'est impossible à prédire. Voici une expérience que vous pourriez faire à ce propos. Prenez une donnée et essayez de l'enseigner à quelqu'un au moyen des vieux procédés d'éducation du 17e ACC. Je dis en passant, ils étaient très intéressants, ces procédés. Essayez de lui enseigner cette donnée, prenez n'importe quelle donnée de scientologie, dites-la lui et demandez-lui de la répéter. C'est le plus simple de tous ces procédés. Vous lui dites la donnée et vous lui demandez de la répéter. Mais vous lui dites la donnée et vous lui demandez de la répéter. Ensuite, vous lui dites la donnée, vous lui demandez de vous dire ce qu'elle signifie en vous en donnant un exemple. Vous lui dites la donnée, il vous en donne un exemple. C'est la chose la plus dingue que vous puissiez faire avec quelqu'un. C'est complètement fou. Et quoique simple, ce mécanisme est extrêmement puissant. Et il est très intéressant. J'ai vu ce procédé débloquer un cas très coriace, se dit en passant. C'est ça qui était intéressant avec ces procédés d'éducation. Ils étaient très limités en ce sens qu'ils ne débloquaient pas beaucoup de cas, mais ils étaient capables d'éliminer le côté « je ne veux recevoir aucun effet » dans l'entraînement des auditeurs. Eh bien, je vous recommande ces procédés. En fait, nous n'avons pas d'étudiants qui soient mauvais au point qu'il faille leur administrer ces procédés d'éducation, et prendre quelqu'un qui va leur dire la donnée, la leur faire répéter, puis dire la donnée, leur en demander un exemple, et ainsi de suite. Ces procédés étaient au nombre de 3, quelque chose comme ça. Ils sont très bons pour le gars avec lequel vous avez perdu tout espoir. Ils sont bien meilleurs que l'auditing. Prenez le gars, et vous nommez un étudiant pour lui administrer le procédé. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'employer des données de scientologie. Vous pouvez dire « Le chat est noir. » Très bien, maintenant, dis-moi « Le chat est noir. » Le gars dit « Eh bien, il y a un certain nombre de cas où un chat n'est pas noir. » Vous dites « Très bien, très bien. » Et maintenant, dis-moi simplement cette donnée « Le chat est noir. » Et vous l'amènerez finalement au point où il sera capable de... Vous dites quelque chose, il est capable de le répéter. Ensuite vient la seconde étape, où vous dites quelque chose et il le comprend. Autrement dit, faites-lui dupliquer les mots et faites-lui dupliquer la signification. C'est en essence ce que vous faites ici pendant votre entraînement, sauf que vous le faites comme une action inhérente à votre vie quotidienne, vous le faites de A jusqu'à Z. Vous lisez un bulletin, puis vous allez voir Mike. Bien sûr, certains d'entre vous regrettent alors d'être allés le voir, mais ça fait partie du jeu. Mais regardez, il n'essaye pas d'être dur avec vous. Il essaye simplement de vous amener à faire une chose bien précise, qui est l'une des phases de ce procédé d'éducation. Voici ce qui se passe en essence. Je vous communique une donnée, et il cherche ensuite à savoir si vous la dupliquez. Et n'allez pas croire que ce n'est pas thérapeutique. Ça l'est. C'est sacrément thérapeutique. Mais ce n'est pas le côté thérapeutique qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est l'aspect communication d'une donnée. Et le fait de vous amener à un point où vous êtes finalement capable d'assimiler une donnée. Maintenant, examinons cela. Cela fait 6 mois ou plus qu'on emploie ce procédé avec certains des étudiants les plus anciens ici, et puis la 3D criss-cross est sortie, sous une forme incomplète, mal formulée, à vous donner des frissons dans le dos. Et ces étudiants l'ont administré sur le champ. Et ils ont tout de suite obtenu des résultats. Autrement dit, il aura peut-être fallu 10 minutes pour la comprendre, c'est-à-dire le temps de la lire. Je veux dire, ça a été aussi vite que ça, et ils ont été capables de la mettre en pratique et de s'en servir, et puis soudain, tous ces résultats sont apparus. Eh bien, cela ne veut pas dire qu'ils sont devenus des robots. Cela veut dire tout bonnement que leur aptitude à dupliquer est entrée dans une deuxième phase, la compréhension. Car évidemment, on ne leur avait pas fourni de données à dupliquer. Maintenant, regardez un peu sous quelle forme la 3D a été publiée pour la première fois, ou plutôt, sous quelle forme elle a été mentionnée pour la première fois. Il s'agissait simplement de quelques gribouillages dans les comptes rendus de cas, vous savez, dans les dossiers de cas. Voilà comme on en a parlé pour la première fois. Ensuite, il y a eu une description plutôt incomplète de la 3D criss-cross, qui ne vous mène pas très loin. Et puis, il y a eu les rumeurs qui se sont répandues dans la classe. Eh bien, ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'il n'y a eu pratiquement rien à dupliquer du point de vue mot. Et malgré cela, ces étudiants étaient capables non seulement de dupliquer la donnée qu'on leur a transmise, mais aussi de la comprendre et de la mettre en application. Eh bien, considérez cela comme un gain considérable. Et il ne s'agit pas de n'importe quel gain. C'est un gain dans le domaine de l'entraînement. Ce qui est tout à fait remarquable. Maintenant, le comlag qu'ont eu les autres étudiants, ceux qui n'avaient pas autant d'entraînement, a été de l'ordre de 10 jours... à 2 semaines. Il aura fallu tout ce temps rien que pour dupliquer les mots et pour se plaindre de l'absence de texte. Voyez, ils en étaient encore au point où il leur fallait les mots exacts et puis finalement il a fallu prendre quelques mots bien précis et développer à partir de ces mots et il a fallu faire pour chacun de ces étudiants tout un tas d'annotations dans les dossiers de cas et puis brusquement ils ont réussi à administrer le procédé et obtenu un résultat. Et ils commencent à comprendre maintenant. Vous voyez, cette façon d'agir est légèrement différente. Est-ce que vous voyez le mécanisme ici? Lorsque vous entraînez quelqu'un, est-ce que vous voyez où il mène? Est-ce que vous voyez les différentes phases de ce mécanisme? Autrement dit, votre premier gradient, c'est la non-compréhension des mots. Voyez, voilà votre premier gradient. La non-compréhension des mots. Maintenant, ça fait un sacré choc de découvrir que le moral tombe à zéro et que toutes sortes de choses vont de travers dans certains AGC quand on demande aux gens de dupliquer exactement un bulletin. Voyez à quel stade ces gens en sont. Est-ce que vous voyez à quel stade ils en sont dans leur entraînement? Se dit en passant, il importerait peu et cela n'affecterait pas leur aptitude à apprendre si nous examinons cela. Disons que nous essayons d'améliorer l'aptitude de quelqu'un à apprendre, que nous voulons augmenter sa vitesse d'assimilation. C'est la seule chose que nous voulons améliorer, rien d'autre. Nous n'avons rien d'autre en tête, voyez? Eh bien, ce que vous enseigneriez à la personne n'aurait aucune importance. Il pourrait s'agir de livres sur les chaînes de montage automobile, vous savez, les manuels dont se sert à Detroit pour les chaînes de montage automobile. Et vous enseignez ça à une personne qui n'a jamais monté une automobile de sa vie, et qui ne le fera jamais, et qui n'a même pas joué avec des modèles réduits de voitures quand elle était enfant. Et vous pourriez prendre ce genre de livre, ou bien vous pourriez prendre l'histoire du socialisme vue par l'administration des projets de travaux et son développement dans l'Arizona du Nord. Il y a probablement des tas de bouquins sur le sujet. On payait des gens pour sortir des pages et des pages de littérature sur l'administration des projets de travaux. On prenait un chômeur pour être sûr qu'il ne travaille pas, parce qu'autrement, il aurait pu trouver du travail. Et tout ce qu'il avait à faire, c'est assembler des piles de papier et de coupures de journaux de n'importe quelle nature et dans n'importe quel ordre. Et puis tout cela était publié aux frais du gouvernement sous la forme de très gros livres aux couvertures très épaisses. Et pendant un temps, ils ont été en vente un peu partout. Ils étaient très pratiques. Vous pouviez vous en servir pour soutenir des bureaux auxquels il manquait un pied. Mais pour ce qui était des données qu'il contenait, il n'y avait pas plus incohérent. Eh bien, nous pourrions nous servir de ce genre de livre. Nous pourrions nous servir du code légal de l'Église d'Angleterre à ses débuts, vu par l'Église catholique. Nous le pourrions, peu importe le livre employé, du moment qu'il contient des données. Peu importe le nombre de données inutiles, du moment qu'il y a des données à étudier. La question est de savoir s'il y a des données à étudier. S'il y en a, vous vous servez du livre. Vous vous en servez pour améliorer la vitesse d'assimilation de la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous lisons à voix haute. La personne est assise en face de nous et nous lisons à voix haute. Nous nous servirions du genre d'approche conventionnelle dont se servirait un auditeur. Nous dirions « Toutes les églises du Northumberland virent leurs fenêtres supprimées » à cause d'un impôt sur les fenêtres qui était de 3 shillings et 6 pence par fenêtre par année sabbatique. Sabbatique, c'est ce qui est écrit, vous voyez. Et nous disons à la personne, très bien, dis-moi cette phrase. Qu'est-ce que je viens de dire? Et elle va dire, l'impôt sur les fenêtres? L'impôt sur les fenêtres? Qu'est-ce que c'est que cet impôt sur les fenêtres? Qu'est-ce que ça veut dire, sabbatique? Et d'abord, qu'est-ce que c'est que ce livre que tu me lis? D'où ça vient? De quelle partie du Northumberland tu veux parler? Voyez toute cette confusion. Vous avez un exemple ici de votre première étape. Vous essayez de l'amener à faire une chose aussi simple que répéter une suite de sons. Vous les qualifiez même pas de mots. Voyez. Et la personne sombre dans une confusion monstre. Donc l'état dans lequel vous trouvez la personne au départ, c'est un état de confusion énorme au niveau des données. Et cette confusion disparaît dès le moment où la personne tente de dupliquer les données. Dès qu'elle tente de dupliquer les données, la confusion commence à se dissiper. Le Northumberland? Quel Northumberland? Quelle année sabbatique? 3 shillings et 6 pence. Un impôt de 3 shillings et 6 pence, hein? Mais qui exigeait cet impôt? Quel impôt? C'est quoi un impôt d'abord? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui taxait les gens à cette époque-là? Et cela pourrait ensuite dégénérer en discussion communiste, par exemple. Une cellule communiste se réunirait pour discuter et déterminer si oui ou non les capitalistes devraient exister, voyez? Parce que nous avons mentionné le mot « impôt ». Autrement dit, la personne resterait bloquée sur un bouton quelque part. Il y aurait collision totale entre la donnée et ce bouton. Et à partir de là, nous ne décollerions jamais de ce bouton. Soit dit en passant, voilà quelque chose d'extrêmement utile quand vous avez affaire à des comités. Vous savez, l'art d'obtenir qu'une certaine chose soit faite par l'intermédiaire d'un comité n'a jamais été perfectionné. Il n'a jamais été perfectionné dans toute l'histoire humaine. Si vous voulez que quelque chose ne se réalise pas, nommez un comité. Et ne mettez dans ce comité aucune personne ayant la moindre part de responsabilité individuelle dans le travail dont il s'occupe. Faites en sorte que tout le monde dans le comité soit responsable de tout. Dès lors, les choses iront complètement de travers. Mais alors, complètement de travers. De même, la façon de s'y prendre pour paralyser un comité ou un conseil d'administration, et c'est quelque chose que certains d'entre vous aimeraient peut-être savoir un jour ou l'autre, il est parfois très important que quelque chose ne soit pas discuté, de ne pas permettre au comité de parvenir à une conclusion ou de voter une motion. Comme de toute façon les comités ne prennent que des décisions à moitié élaborées, qui reposent sur un compromis de la part de leurs membres, eh bien les comités parviennent généralement à la mauvaise décision dans presque tous les cas. Vous savez, ils n'ont pas beaucoup de données, ça ne les intéresse pas vraiment, et personne dans le comité n'est responsable de quoi que ce soit, ils veulent plus ou moins se débarrasser de toute l'histoire, voyez. C'est un esprit qu'ils adoptent. Et puis soudain, ils se mettent à discuter de quelque chose de très très important qui va influer sur l'existence à long terme de la compagnie ou du groupe et toucher son management. Et ça, c'est quelque chose que vous voulez éviter à tout prix. Pour y parvenir, tout ce que vous avez à faire, c'est introduire un bouton qui va les amener à ne pas prendre la moindre miette de responsabilité. Introduisez simplement un bouton qui réduira leur niveau de responsabilité. N'importe quel bouton, n'importe lequel. Donnez-leur un bouton restimulant. Allez-y à coup de symbole. Vous essayez de paralyser ce comité, voyez, ça vous cherchez à faire, et ouvertement, pour qu'ils ne prennent pas la mauvaise décision. Ils disent, bien, je ne sais pas, ce projet de paiement, vous savez, ce projet de paiement, peut-être que nous devrions vérifier avec ce gars. Bien, ce projet de paiement, le département de la comptabilité est en train de le préparer, mais est-ce qu'il ne faudrait pas que quelqu'un élabore ce projet? Et vous dites, bien oui. Vous voyez la scène d'ici, ils abordent quelque chose de complètement extravagant que personne ne pourra mettre en œuvre, et en plus, personne ne s'y intéresse particulièrement. L'un des meilleurs boutons, c'est le mot « étudier ». C'est un mot qui va paralyser tout le monde. Introduisez simplement le mot « étudier », vous voyez ? Boum ! Et ce comité n'ira pas plus loin. Dites simplement « Nous allons faire une proposition comme quoi l'affaire devra être étudiée de plus près. » Et appuyez très fort sur le mot « étudier ». Le comité n'ira pas plus loin. Il va s'arrêter net. C'est fabuleux. Vous n'êtes pas obligé d'introduire ce mot-là, vous pouvez dire par exemple « La dernière fois que ce genre de choses a été proposé, est-ce que ce n'était pas... » Vous savez, il y a ce type du nom de Mage Pro et personne ne peut le sentir dans l'organisation, et il vous suffit de prononcer son nom et tout le monde fait « Donc vous dites « Est-ce que ce n'est pas Mage Pro qui a proposé cela la dernière fois ?» Et bien sûr, sur le champ, personne ne va vouloir assumer la moindre responsabilité. Et ils vont se mettre à discuter de Mage Pro. Et vous aurez gagné. Mais ils vont s'écarter de la question avec un bouton comme celui-là. Et vous verrez que les gens réagissent comme ça. Vous le verrez quand ils étudient. Vous avez cette personne qui a des tas de vertes contre le sabbat, vous prononcez le mot sabbatique, et elle se demande si c'est lié au sabbat, et elle vous entraîne dans une discussion où elle ne parle que de sabbat. Est-ce que c'est bien d'avoir un sabbat? Ou le sabbat a-t-il été créé? En fait, est-ce que ce n'était pas une pratique païenne dès le départ? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça n'a absolument rien à voir avec ce que vous étudiez avec elle. Elle va s'écarter du sujet dès que vous prononcez le mot. C'est très curieux. Eh bien, vous diriez qu'il faudrait pas mal d'auditing à cette personne pour se débarrasser de ce genre de choses. Non. Il existe un autre système qui permet de s'en débarrasser et qui lui enseigne qu'elle peut passer outre ces points sur lesquels elle reste bloquée, que ces points ne l'empêchent pas de dupliquer. Et petit à petit, elle en prend conscience. Ces boutons ne l'empêchent pas vraiment de dupliquer. Même si ses boutons l'énervent, et qu'elle ne les aime pas, elle peut quand même dupliquer ce qu'elle étudie. Et elle finit par voir la duplication pour ce qu'elle est. La duplication, c'est la duplication. Ça ne consiste pas à éliminer des boutons. Ça consiste simplement à dupliquer. La duplication, c'est la duplication, rien d'autre. Maintenant, vous seriez incapable de voir quoi que ce soit si vous n'étiez pas capable de dupliquer. Par exemple, vous devez être capable de regarder une rangée de portes, ou quelque chose comme ça, pour voir qu'il y a une rangée de portes. Vous pouvez employer ce genre de procédé avec certains PC en auditing et obtenir des résultats extraordinaires. Dites simplement, « Eh bien, qu'est-ce qu'il y a là, le long du mur ?» Il va dire, « ça doit être des casiers pour les étudiants qui sont fermés au verrou. Les portes ne sont pas très droites en haut, tu crois pas ?»« Oui, on dirait des casiers pour les étudiants, on les a probablement mis là pour une raison bien précise. » Et puis brusquement, il va dire, « Dis-moi, est-ce que vous avez un menuisier qui travaille pour vous ?» Qu'est-ce que vous lui aviez demandé ? Vous lui aviez demandé, « Qu'est-ce qu'il y a le long du mur ?» En fait, tout ce qu'il a à faire, c'est regarder le mur et dire, « Il y a des portes. » Mais il va toujours chercher à compliquer les choses. Observez-le, et vous verrez qu'il va chercher midi à 14h. C'est comme ça que les choses se déroulent, avec ce procédé. Vous demandez à quelqu'un, « Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ta tête ?» Demandez à quelqu'un un jour, « Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ta tête en ce moment ?» Dites-le en appuyant bien sur les mots pour qu'il comprenne que vous voulez dire « au-dessus de sa tête » et « en ce moment ». Helga va partir dans quelques-unes des digressions les plus intéressantes que vous ayez jamais entendues. Des choses qu'il menace, et ainsi de suite. Il ne va pas vraiment être sûr de ce qu'il y a. Certaines jeunes filles vous diront « Oui, je sais, je suis toute décoiffée, mais... » Vous allez avoir toutes sortes de digressions bizarres et étranges. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de sa tête ? Le plafond, bien sûr. C'est ça qu'il y a au-dessus de sa tête en ce moment. Ils réussissent toujours à passer à côté de ce qui est évident. En fait, il faut pas mal d'entraînement aux gens pour qu'ils se mettent à observer les choses qui sont évidentes. Et cette étape ne consiste en rien d'autre. L'obnose, l'observation de ce qui est évident. Qu'est-ce qu'il y a devant toi ? Posez cette question un jour à quelqu'un dont le niveau d'avoir est bas et dont l'aptitude à atteindre est faible. Posez-lui simplement cette question, qu'est-ce qu'il y a devant ton visage ? La réponse évidente, c'est bien sûr, toi. Mais vous risquez d'obtenir quelques-unes des réponses les plus incertaines et les plus saugrenues que vous ayez entendues avec des questions simples de ce genre. Eh bien, c'est parce que la personne ne fait pas vraiment le lien entre la signification et les choses. C'est parce qu'à chaque fois qu'elle pense à quelque chose, la signification fait son apparition. Et elle croit devoir accorder plus d'attention à la signification qu'à ce qui se passe. Autrement dit, ce qui est en train d'arriver à la personne a moins d'importance que ce qui pourrait lui arriver, ou que ce qui va lui arriver, ou que les conséquences de tout ça. Elle est obsédée par les conséquences, et elle n'est donc absolument pas dans le temps présent. Eh bien, quand vous prenez ce bouton paralyseur appelé l'étude, les gens ont tendance à faire dans tous les cas. Et c'est un très bon bouton à planir vu qu'il s'agit de l'inflow de données, donc de la duplication des données et rien d'autre. La simple duplication d'une donnée prononcée. Comprenez, je ne suis pas en train de vous parler d'une donnée du genre « un problème est un postulat contre postulat ». Je ne suis pas en train de vous parler de données primordiales, mais de n'importe quelle donnée, primordiale ou non. Vous pourriez dire, il y a un Noël par an. Il y aura des gens qui diront aussitôt, eh bien cette donnée n'est pas assez importante, tout le monde le sait qu'il y a un Noël par an, évidemment. Vous allez avoir toutes sortes de bavardages en réponse. Tout ce que vous lui aviez demandé, c'est de répéter après vous ce que vous disiez. Vous dites, il y a un Noël par an. Et la personne va dire, bien sûr. Je sais qu'il n'y a qu'un Noël. N'importe quel abruti sait qu'il n'y en a qu'un. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Où tu veux en venir ? Vous lui dites ? Bon, très bien. Mais répète simplement après moi, il y a un Noël par an. C'est absurde, c'est évident, tout le monde sait qu'il y a un Noël par an. Et ainsi de suite. La personne reste accrochée à l'insignifiance de la chose. Vous voyez, vous avez dit quelque chose de si insignifiant qu'elle ne sait pas quoi faire. Il n'y a rien à attaquer ici. Et elle est terriblement déçue. Dites, la plupart des hommes sont du sexe masculin. Oui. Ou bien, les femmes sont du sexe féminin. Les femmes sont du sexe féminin, naturellement. Nous savons que les femmes sont du sexe... Mais qu'est-ce que tu me racontes, là? C'est évidence même, tout le monde le sait. Pourquoi tu dis ça? Et soudain, le gars va vous considérer avec beaucoup de curiosité. Il va se demander quels sont vos motifs et vos intentions et ce que vous essayez de faire. Eh bien, ce n'est pas du gâteau. Dites, les femmes sont du sexe féminin, il y a un Noël par an, les jours commencent à minuit. Il y a des gens qui ne le savent pas, vous savez, ils vont dire, vraiment? Les jours commencent à minuit? Vous dites, bon, très bien. Les jours commencent à minuit. Je veux simplement que tu répètes cela. Les jours commencent à minuit. Ça, c'est marrant, alors. Je savais pas. Vous voyez, le gars s'est pris d'intérêt pour la chose et il est complètement coincé dans cet intérêt. Vous dites, les jours commencent à minuit. C'est ça que tu es censé dire. Et le gars dit, ben voilà pourquoi devrais-je étudier cela? Les jours commencent à minuit. Qu'est-ce que nous étudions ici? Est-ce que c'est une leçon sur la scientologie ou sur le temps? Est-ce qu'il y a des axiomes sur le temps? Ah oui, je vois, les jours commencent à minuit. Mais à quel axiome ça se rapporte, d'abord? Vous dites, non, contente-toi de répéter après moi, les jours commencent à minuit. Oui, mais pourquoi? Vous voyez ce que je veux dire? Autrement dit, ils ont un mécanisme qui déclenche automatiquement une réaction. Ils agissent uniquement par excitation réflexe. Rien d'autre. Uniquement par excitation réflexe. Mais qu'est-ce qui réagit? La personne ou le banque? En fait, voilà simplement une autre méthode pour dégager le tétan du bourbier. Et vous finirez par en arriver à un point où c'est le tétan qui répond. Vous dites, le jour commence à minuit. Et il dit, le jour commence à minuit. Il se moque pas mal que le jour commence à minuit ou non. Ça n'a rien à voir. Il dit, le jour commence à minuit. Très bien. Vous dites, Noël a lieu une fois par an. Il dit, Noël a lieu une fois par an. D'accord? Bon. Maintenant, les gens qui n'aiment pas ce procédé, qui continuent d'être perturbés par cette technique, vous diront, vous êtes en train de faire un esclave, c'est de l'esclavage. Quelque chose comme ça. Cette action cache quelque chose de très profondément enraciné, de très significatif, quelque chose de très significatif. Si vous réussissez à obtenir d'une personne qu'elle fasse ce que vous lui demandez ici, elle sera évidemment réduite à l'état d'esclave après. C'est évident. Sauf que rien n'est jamais venu prouver cette affirmation. La seule façon d'amener une personne à vous répondre d'une manière sensée, c'est de la rendre capable de dupliquer. Parce qu'elle sera à même d'observer le sujet de sa réponse. Et tant qu'elle n'en sera pas capable, elle vous parlera de choses qui n'existent pas, ce qui est très déconcertant. Quelqu'un arrive et fait un potin de tous les diables à cause des hussards qui ont envahi le gazon. Vous avez jeté un coup d'œil et vous ne voyez pas le moindre hussard sur le gazon. Puis vous lui demandez d'aller vérifier s'il y a des hussards sur le gazon et il dit « Pourquoi devrais-je aller voir? Je sais qu'ils sont là, point c'est tout. » Et vous dites « Bon, c'est très bien. » Eh bien, allons voir le gazon pour nous assurer qu'il y a des hussards. Pourquoi ferais-je une chose pareille? Est-ce que tu mettrais ma parole en doute? Et vous voilà parti dans une discussion où il cherche à savoir si, oui ou non, vous pensez qu'il est un homme d'honneur. Vous voyez un peu les digressions dans lesquelles vous pouvez vous perdre ici. Il commence avec une prémisse insensée et finit avec une discussion idiote. Tout ce que vous demandez à la personne, c'est de dupliquer une donnée. Vous dites, Noël a lieu une fois par an. Et elle dit, Noël a lieu une fois par an. Et ça ne l'embête pas. Maintenant, on peut aussi inverser les rôles et faire une chose très intéressante. Se faire dupliquer. Par exemple, le gars vient d'avoir une idée inédite, tout seul comme un grand, peindre la maison en vert. Et il sort, il dit à quelqu'un, peins la maison en vert. Et la personne dit, vert bouteille, hein? Non, vert, c'est tout. Oui, mais il y a des tas de verres, tu sais, il y en a des tas. Il y a aussi des tas de peintures. Chez quel marchand achètes-tu ta peinture? Bon. Je vais te dire ce que je vais faire. Il y a une maison dans le comté d'à côté qui est peinte dans une nuance particulière de vert, et nous allons leur écrire une lettre pour leur demander la compagnie où ils se sont procuré la peinture et la nuance qu'ils ont employée. Mais bien sûr, il va d'abord te falloir faire un tour là-bas pour voir de quelle couleur exactement est la maison. Vous dites, non, je veux que cette maison soit peinte dans un vert, tout ce qu'il y a de plus banal et de plus ordinaire. Il va revenir à la charge. Oui, mais il y a des peintures qui ne durent pas aussi longtemps que d'autres. Si vous parvenez à vos fins, c'est que vous aurez développé une aptitude à vous faire dupliquer, à obtenir que vos idées soient dupliquées. Et vous allez être surpris. Si vous vous y prenez bien, vous constaterez à votre grande surprise, à mesure que votre aptitude à vous faire dupliquer s'améliorera, que l'on vous duplique avec la plus grande facilité. Vous dites à quelqu'un de peindre la maison en vert, et il vous sort un échantillonnage de couleurs de sa poche et dit « Très bien, tu veux celle-ci, celle-ci ou celle-ci »« Celle-ci, d'accord, très bien. » Il s'en va, achète la peinture, peint la maison en vert, fait du bon boulot et tout est pour le mieux. Cela réduit la randomité au maximum. Autrement dit, en apprenant à dupliquer, vous pouvez en arriver à un point où vous vous faites dupliquer. Maintenant, il ne s'agit pas exactement de processing. C'est le processus le plus important de la vie et de l'existence. Il vous donne un maximum d'avoir. En effet, vous commencez à avoir les choses qui vous entourent. Très bien. Après la duplication vient la compréhension. La compréhension vient après la duplication, pas avant. Maintenant, à votre avis, quel était le niveau de compréhension de ce type qui, lorsque vous avez dit « Noël a lieu une fois par an », vous a dit « Pourquoi nous abordons ça ?» Il me semble que ça n'a pas grand-chose à voir avec le procédé. Et ainsi de suite. Eh bien, vous verrez que presque toutes les questions qu'il vous pose traduisent sa non-compréhension ou bien un effort pour comprendre. Vous lui avez dit la donnée, Noël a lieu une fois par an. Voilà la donnée que vous lui avez dite. Et il essaie désespérément de comprendre cette donnée et n'y arrive pas. Il va s'escrimer comme un beau diable pour comprendre cette donnée, pour comprendre les motifs qui vous poussent à essayer de lui faire comprendre cette donnée, pour comprendre à quoi la donnée s'applique, pour comprendre pourquoi il n'y a rien à comprendre. Et vous constaterez que la plupart de ces « oui, mais » ne sont qu'une sorte d'effort pour comprendre. Et c'est pour cela que l'étude est un bouton d'une telle puissance. En effet, pour les gens, l'étude, ça consiste à faire que quelqu'un d'autre comprenne ce qui vous dégage de la responsabilité de comprendre. Il n'y a pas un gouvernement dans le monde à l'heure actuelle qui ne soit prisonnier de ce mécanisme. C'est le mécanisme sur lequel s'appuient les gouvernements. Ils ne sont pas obligés de comprendre quoi que ce soit, parce qu'ils peuvent toujours le faire étudier par quelqu'un d'autre. Vous voyez ? Et cela stoppe complètement tout progrès dans un comité ou n'importe quel autre organisme. Ça le stoppe net. Vous dites, quelqu'un d'autre va étudier la question, donc inutile d'en dupliquer une quelconque partie. Comme on va étudier la question, vous n'êtes pas obligé d'y comprendre quoi que ce soit, par conséquent, tout ce que nous attendons de vous, c'est que vous mettiez à exécution quelque chose auquel vous ne comprenez rien et sur lequel vous ne possédez aucun renseignement. Ce qui vous donne la démocratie sous sa forme habituelle, c'est-à-dire complètement massacrée. La démocratie en délire. Voyez-vous, la démocratie ne marche pas lorsque la compréhension n'est pas présente. Elle ne peut pas marcher. Donc voilà votre deuxième étape. Prendre la responsabilité de comprendre implique une étude personnelle. Et si vous amenez la personne à le faire, vous élevez bien sûr son aptitude à comprendre. Non seulement Noël a lieu une fois par an, mais la personne est capable de comprendre et d'étudier à présent Noël et une fois par an et ce à quoi ces mots se rapportent. Elle est capable à présent de voir qu'il s'agit d'une donnée complètement insignifiante. Jusqu'à présent, cette donnée était peut-être importante, ou peut-être pas, Dieu seul le sait. Le gars n'aurait pas pu savoir s'il s'agissait de quelque chose qu'il devait savoir, ou qui n'avait aucune importance, ou qui lui aurait valu d'être fusillé pour l'avoir ignoré, ou qu'il ferait mieux d'oublier en vitesse, ou qui était lié au fait que les gens portent des chaussures avec des semelles sales. voyez ce que je veux dire. Donc, la deuxième étape consiste à déterminer l'importance des données. En fait, il s'agit de la troisième étape. La première, c'est l'incompréhension, la non-duplication, la confusion. La deuxième n'est autre que l'aptitude à dupliquer. Et ensuite, vous avez l'aptitude à comprendre, donc l'aptitude à observer. À cette étape, on trouve le jugement, et cette étape est la route qui mène au jugement. Maintenant, personne ne s'est jamais vraiment donné la peine d'enseigner le jugement au cours des 200 derniers billions d'années. Et vous ne trouverez pas beaucoup de jugement dans un banque. Si le banque avait comporté beaucoup de jugement, ce n'aurait pas été un banque. Examinons cela. Si telle valence avait été capable d'étudier, de différencier et de juger, elle n'aurait pas été aberrante. Pas vrai ? Donc le jugement était quelque chose qu'on rencontrait rarement sur la piste de temps. Donc voici en essence un nouveau talent, ici. Ça va être très difficile d'en doter les gens, vu qu'ils ne l'ont jamais eu. Ils ont été capables d'observation autrefois, mais comment observaient-ils ? Ils en faisaient invariablement une observation distordue, pour avoir un jeu, quelque chose comme ça. L'observation pure, l'étude pure, la duplication pure, la compréhension pure ou le jugement pur n'ont jamais été des sujets d'étude dans le domaine de la philosophie. Ces sujets n'existent pas, un point c'est tout. Ils ne sont même pas des sujets de discussion. Platon, Socrate et consorts les ont effleurés très légèrement. Et ces sujets, on les a complètement évités dans les religions et dans les philosophies religieuses. On les a évités comme la peste. C'est comme si vous aviez agité un serpent à sonnette devant leur visage, vous savez. La compréhension, la duplication. Non, à éviter absolument. Et nous connaissons bien sûr la cause de tout cela. Le plus grand overt qui puisse exister, c'est de faire tout ce qu'on peut pour que quelque chose ne soit pas su ou compris. Voilà un overt de taille. Ne me croyez pas. Mais prenez quelqu'un un jour et demandez... Qu'est-ce que vous avez fait ? Oh, cette jeune fille a des retenues, des crimes. Elle ne peut porter aucune de ses robes parce qu'elles sont pleines de sang, vous savez. Elle n'ose prendre aucun de ses porte-monnaies à cause des vipères qu'elle y a cachées. Elle ne peut même pas ouvrir son armoire à pharmacie sans éprouver un sentiment d'insécurité à cause de l'arsenic qui déborde des flacons. Et vous dites, qu'avez-vous fait ? Et elle dit, ce que j'ai fait, hein ? Eh bien, j'ai dîné. Et vous dites... Bien, qu'avez-vous retenu ? Je n'ai rien retenu. Bien. Très bien. Qu'avez-vous fait ? Oh, je me suis assise ici, mais en un instant. Bien. Qu'avez-vous retenu ? Rien. Ouais. Je n'ai rien retenu. Ma vie est comme un livre ouvert. Et vous vous arrachez les cheveux à essayer d'administrer une vérification de sécurité à cette personne, parce que vous ne trouvez chez elle aucune responsabilité qui pourrait faire mordre la vérification de sécurité. Il vous faut augmenter son niveau de responsabilité avant de pouvoir trouver des retenues. Vous voyez, le PC est là, mais il est complètement muselé par son irresponsabilité. Voyez-vous, l'une des façons de déterminer si un cas progresse, c'est de regarder si le nombre de retenues qu'il vous communique augmente. Cela revient à demander, est-ce que son niveau de responsabilité augmente ? Oui, il augmente parce que le cas communique davantage de retenues. Des retenues qui, jusque-lors, n'étaient pas des retenues. Mais vous pouvez prendre cette même personne, cette jeune fille, et lui demander « Qu'est-ce que votre famille ne sait pas ?»« Ah, ça, c'est différent. »« Eh bien, elle ne sait pas que j'ai empoisonné Jean et que j'ai descendu Pierre. Elle ne sait pas où j'ai caché le corps le mois dernier. Elle ne sait pas ce qui est arrivé aux enfants. Elle ne sait pas... » Voyez, ne sait pas est toujours un bouton. C'est un bouton qui marche à tous les coups. Vous pouvez toujours effectuer une vérification de sécurité avec ne sait pas ou avec ne pas savoir lorsque les overts et les retenues du PC lui passent au-dessus de la tête comme ces engins de l'espace. Ne sait pas marche invariablement. La philosophie... Deux philosophes ont étudié le non-savoir. Deux philosophes surtout. L'un est Kant et l'autre Spencer. Ils ont conclu qu'il n'était pas possible de connaître ce qui n'était pas connu. comme c'est intéressant. Autrement dit, l'approche philosophique la plus approfondie du problème du ne pas savoir ou du non-savoir a été que vous ne pouviez pas savoir. Intéressant, non? Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas eu de route qui mène au jugement. Maintenant, depuis de nombreuses années, j'essaie de vous apprendre à faire preuve de jugement en ce qui concerne les êtres. Ça a été une tâche ardue et difficile. Faire preuve de jugement en ce qui concerne un autre être, l'aptitude à comprendre ce qui se passe pendant une séance, agir avec jugement, de façon à entreprendre l'action appropriée. Maintenant, savez-vous que ce qui vous empêche de faire preuve de jugement, eh bien, c'est tout simplement le non-savoir. Et d'où vient ce non-savoir? Eh bien, il commence avec la duplication. Voilà où il commence. Bien sûr, vous pourriez venir à bout de cela avec des vérifications de sécurité. Qu'est-ce que les gens ne savent pas à ton sujet? Et ainsi de suite. Vous rendriez la personne infiniment plus vive d'esprit. Mais ça, c'est l'approche processing. Je ne suis pas en train de vous parler d'une approche processing. Parce qu'il n'y a rien ici sur quoi diriger le processing. Voyez-vous, le processing, c'est pour auditer quelque chose qui est là. Maintenant, si un téton est en mauvaise condition, c'est parce qu'il a invalidé son jugement. C'est parce qu'il a laissé tomber son jugement. La seule et unique leçon que cet univers enseigne à une personne, c'est qu'il ne faut pas dupliquer et qu'il ne faut pas communiquer. Vous savez, il n'y a que deux crimes que vous ayez commis dans cet univers et pour lesquels vous avez condamné les autres. Être là et communiquer. Ce sont les deux crimes. Il n'y en a pas d'autres. Être là et communiquer. Maintenant, si ces deux choses constituent des crimes, et on en a fait des crimes, il ne vous reste plus qu'une décision possible. La personne doit apprendre, pourrait-on dire, pas vraiment apprendre en fait, mais elle doit en arriver à un point où il lui est aisé d'être là et de communiquer. Et la méthode pour y parvenir est bien sûr la duplication d'une donnée. Or, une donnée est une localisation qui n'a pas besoin d'être fixe. Une donnée est une localisation, elle s'apparente au tétan, vous savez. Toute donnée est une cousine proche du tétan. Le tétan est une idée, il lui arrive de penser, il a des idées et peut communiquer des idées. Vous pouvez toujours mettre tout un tas d'idées dans votre attaché-caisse de tétan, vous n'aurez pas la moindre masse. Donc une idée est la chose idéale à transporter, c'est la chose la plus transportable du monde. Ainsi, quand les tétans sont chassés d'un peu partout, ils commencent à se servir des idées en guise de localisation. Ils se sentent bien quand ils ont une idée, vous savez. Et cette idée qui leur donne un sentiment de bien-être, c'est le fait d'avoir une identité. Bien que l'identité soit mobile, ils se sentent mieux avec une identité que sans. Parce qu'ils ont alors la sensation d'être localisés, d'être situés. Ils aiment ça. Donc, quelle est la conclusion que nous pouvons tirer ici? Eh bien, la conclusion est que vous pouvez apprendre à avoir du jugement. Et pour apprendre à avoir du jugement, il y a juste ces deux étapes, la duplication des données et, y faisant suite, la compréhension. Vous avez la duplication, puis la compréhension. Mais vous n'avez pas l'inverse. Ce n'est pas la compréhension d'abord et la duplication après. Maintenant, il y a une chose que vous devriez savoir ici. N'importe quelle donnée fera l'affaire aussi longtemps qu'il s'agit d'une donnée. N'importe quelle donnée. La classification des formations géologiques du Moyen-Orient, d'après les observations du département de la géologie, sur l'ordre de la Fondation Rockmount, une étude uniquement consacrée aux schistes et aux éboulements des canyons du sud de l'Arabie Saoudite. En 185 volumes grand format. Et, eh bien voilà des données. C'est des données extraordinaires. On constatera que les schistes anamorphiques sont souvent mêlés à l'hornblende. Dites au PC, les schistes anamorphiques sont souvent mêlés à l'hornblende. Eh bien, ce serait une situation fascinante. La fin, vous le retrouverez bien sûr avec une perceuse à la main, il finira par avoir l'aptitude à faire quelque chose, et il finira aussi par faire preuve de jugement pour ce qui est des femmes. Ce qui est, à mon avis, une chose fabuleuse. Cela relève de l'impossible. J'ai essayé pendant des années et des années, c'est impossible. Pourtant, lui en sera capable grâce à l'étude des schistes anamorphiques et de leur rôle dans la formation de l'hornblende. Intéressant, non? Maintenant, vous ne pouvez pas enseigner le jugement. Tout ce que vous pouvez faire, c'est l'action ci-dessus. Vous ne pouvez pas apprendre à quelqu'un comment il doit juger une chose et lui demander en même temps de la juger. Vous comprenez que vous pouvez enseigner des données à quelqu'un. Oui, par la force du beingness qui est en vous, vous pouvez transmettre une communication et une compréhension aux gens, et ils comprendront. Je vais vous en donner un exemple. Au cours de l'un des ACC, je n'ai fait rien d'autre que donner des conférences. Personne n'a audité qui que ce soit, et tous les profils des graphiques ont très joliment monté. J'ai donné 2 conférences par jour, et nous avons discuté de toutes sortes de données, et ainsi de suite. Eh bien, tout ce que j'ai fait, c'est transmettre une communication qui a été comprise, et les gens se sont sentis mieux, et ont eu tout un tas de cognitions, et la vie leur a paru plus rose. Vous comprenez? Donc, en soi, ça a été une espèce de processing. C'est l'un des ACC qui nous a apporté le plus de gains. Intéressant, non? Donc, c'est tout à fait possible. Et si ça ne l'était pas, nous n'arriverions, évidemment, à rien. Donc, c'est possible. Et c'est quelque chose d'inné. Mais prenons l'autre élément. Améliorons le jugement. Créons, ouvertement et directement, un certain niveau de jugement. Pour ce faire, nous nous servirions de la duplication. Très bien. À quoi avons-nous affaire ici? Eh bien, vous ne l'avez pas vu, cela ne ressortait pas visiblement des procédés d'éducation du 17e ACC. La raison principale en est, pour ne pas avoir de retenue par rapport à vous, que ces procédés ne menaient pas directement à la compréhension et à la duplication. Ce dont je vous parle ici en ce moment même, les 2 choses auxquelles vous avez affaire ici, c'est-à-dire la duplication et la compréhension, eh bien nous avions compris comment y parvenir avant le 17e ACC. Le 17e ACC a été le fruit de cette compréhension. Vous n'êtes pas non plus en présence, pas forcément, d'une tentative préméditée pour vous apporter la compréhension. Le hasard a voulu que vous ayez affaire à 2 choses différentes, et l'une d'elles est tout simplement l'action de dupliquer et de comprendre, d'un côté. D'un côté, vous avez affaire à ça, et de l'autre côté, vous avez affaire à des données purement scientologiques que vous pouvez apprendre. Mais il se trouve que les données de la scientologie servent à développer votre jugement. Mais pas dans le domaine de la scientologie. Maintenant, vous ne vous rendez pas compte, parce que vous apprenez le jugement en suivant une route très ardue, très puissante. C'est une ligne à haute tension, voyez? Donc si vous parvenez à apprendre le jugement en suivant cette route, super. Parce que s'il y a une route qui aurait tendance à détruire votre autodétermination et votre jugement, c'est bien celle-là, pas vrai? Ouais, on ne vous laisse aucune chance de vous demander en quoi consiste la vie. Bonté divine, la nature de la vie, n'est-ce pas la seule chose qui mérite qu'on y réfléchisse? N'est-ce pas la seule chose? Eh bien, je vous dis tout ce qu'il y a à savoir sur la vie, comme ça vous n'avez plus besoin d'y réfléchir et vous avez toutes les réponses. Et voilà. Eh bien, les données que je vous fournis sont vraies. C'est pourquoi elles ont tendance à être retenues. Savez-vous qu'un grand nombre d'entre vous ont, sans le savoir, dépassé le stade où l'on ne fait que recevoir les données? Certains d'entre vous n'ont pas remarqué qu'ils ont dépassé ce stade. Ils en sont parvenus au point où ils prennent conscience des données. Et ils en prennent conscience, non pas parce qu'on les leur a enseignées, mais parce qu'ils en prennent conscience. Et c'est ce que nous appelons faire les données siennes. Vous l'avez souvent dit à un étudiant, mais peut-être que certains d'entre vous n'ont pas regardé de trop près ce que nous entendions par « faire les données siennes ». Autrement dit, la personne doit passer par la duplication des données, puis par la compréhension des données. Et lorsqu'elle a compris les données, elle parvient à la dernière étape, qui est la prise de conscience, complètement autodéterminée, de l'existence de ces données. Et quand vous êtes en présence de la vérité, vous avez toujours cette quatrième étape. Vous avez l'aptitude à prendre conscience et à percevoir. Donc vous avez d'abord, hein, quel mur ? Ne me demandez pas de dupliquer quoi que ce soit. Puis vous avez la simple duplication. Ensuite vous avez la compréhension. Et celle-ci est suivie d'une prise de conscience ou compréhension personnelle. Donc lorsqu'on suit cette route, on retrouve son autodétermination. Évidemment, la façon la plus rapide de rétablir l'autodétermination avec cette suite d'étapes, c'est d'enseigner à la personne l'exacte vérité sur quelque chose. Vous prenez la vérité sur quelque chose, après mains efforts, le gars est capable de dupliquer cette vérité, et il s'ensuit immédiatement une compréhension de cette vérité qu'on lui a enseignée. Vous comprenez, il s'agit là d'une phase bien précise. Le gars dépend encore de vous pour comprendre ce qui est enseigné. Et la phase suivante, la dernière phase, c'est la prise de conscience. Il va soudain prendre conscience de la donnée, de son propre chef. Il a retrouvé une aptitude à comprendre, ce qui lui a permis d'avoir une prise de conscience. Et ce, de son propre chef. Et voilà le chemin que vous devez suivre. C'est un chemin qui comporte une autodétermination totale, une détermination par autrui, et donc, bien sûr, une pandétermination. Tout cela en même temps. La personne devient pandéterminée par rapport aux données. Non seulement elle comprend pourquoi elle a appris la donnée, mais aussi pourquoi on lui a enseigné cette donnée. Et elle prend conscience, par elle-même, de la vérité de cette donnée. Une prise de conscience qui n'a rien à voir avec le fait qu'on lui a enseigné cette donnée. Et à ce moment-là, la personne a bien sûr atteint un niveau élevé de jugement. Elle est alors capable de jugement. Je ne connais pas d'autre route. Je veux dire, si ce n'est pas la route idéale, bon, très bien, donc ce n'est pas la route idéale. Il n'y a pas de route idéale. Peut-être y a-t-il une route idéale, mais si la nôtre n'est pas la route idéale, alors il n'existe pas de route idéale à l'heure actuelle. Mais il y a une chose. C'est la première route qui mène à ce genre de produit. Aucun doute là-dessus. Et en même temps, elle a une fonction complètement différente. Elle accomplit quelque chose à côté, si je puis dire. Autrement dit, elle accomplit deux choses. Peu importe si... Bon, votre instructeur a parfois cette idée abominable. Par exemple, il dit « Très bien, combien de temps s'écoule-t-il avant un ride instantané ? Combien de temps après le ride ? Combien de temps après le ride doit-il se produire ? Le ride instantané. Je ne sais pas combien vous pourriez recevoir de réponses. Moi, à la place de l'instructeur, je ne donnerai pas la bonne réponse. Pour rien au monde, je ne donnerai la bonne réponse. C'est une occasion à ne pas laisser passer pour l'instructeur. Il peut dire « Oui, mais cette bande, qu'est-ce qu'elle dit, cette bande, cette bande-là » Et vous dites « Bien, en fait, une demi-seconde, un quart de seconde, un cinquième de seconde, peu importe, je veux dire, c'est ça, quoi. » « Oui, mais qu'est-ce que dit la bande ?»« Ben, j'en sais rien, ça n'a aucune importance qu'il s'agisse d'un quart de seconde, d'une demi-seconde ou d'un cinquième de seconde. Je veux dire, toutes ces réponses se valent. Gna 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 gna. » Commencez à râler. Et l'instructeur dit « flinque ». Et vous en allez en grognant. Vous commettez tout un tas de vœux contre moi, et ainsi de suite. Et vous réécoutez la bande. Et vous dites, bon, voyons voir ce que dit cette bande. Nom de Dieu, alors ça c'est nouveau. Un vingtième de seconde. Un vingtième de seconde, c'est pas vrai. Bon, très bien. Et vous allez voir l'instructeur. Un vingtième de seconde. Très bien, c'est ça. Maintenant, voyez-vous, ce serait du pédantisme pur et simple, et nous ne le faisons pas, si l'instructeur demandait quels sont les 7 premiers mots du 5e paragraphe du 3e bulletin écrit en 1959 au mois de juin. Vous voyez, ce ne serait rien d'autre qu'une mise à l'épreuve de la mémoire. Et vous constaterez que c'est là le but de toutes les écoles, ou presque. Mettre la mémoire à l'épreuve. Personne ne vous demande de mettre votre mémoire à l'épreuve. On vous demande de dupliquer. Si vous parvenez à dupliquer les données, votre mémoire s'améliorera tôt ou tard, même la vôtre. C'est absolument horrible, pour certains d'entre vous, La première fois que vous devez confronter cela, vous trouvez ça abominable, atroce, chose la plus horrible que vous ayez jamais confrontée. Eh bien, reconnaissez le mécanisme auquel vous vous heurtez et sachez que pas un seul instant, on aura pitié de vous. Et vous découvrez aussi, à mesure que vous progressez, que vous êtes soudain capable de comprendre des choses que vous n'arriviez pas à comprendre avant, ce qui est très singulier. Et peut-être ne l'avez-vous jamais remarqué, mais vous comprenez maintenant des choses que vous n'aviez jamais comprises, qui n'ont rien à voir avec le sujet que vous étudiez, ce qui est tout à fait surprenant. Voilà le genre de choses qui vous arrivent. Vous faites des gains dans une autre direction. Et cette compréhension, c'est quelque chose qu'un auditeur doit posséder. Un auditeur doit être capable de comprendre. Il doit comprendre les choses auxquelles il a affaire. Il doit comprendre ce qui se passe. Un auditeur qui se retrouve dans ce genre de situation est un homme mort. Son compte est bon. Par exemple, le PC dit « Les femmes, c'est pénible ». Il vient de faire à l'auditeur le coup que vous auriez pu faire au comité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il a prononcé le mot fatal. Deux mots fatals. Il a dit « femme » et « pénible ». Ces deux choses ne sont pas compatibles. Révoltant. Il n'est pas possible d'associer ces deux mots dans une même phrase. Comment peut-on trouver les femmes pénibles? Pour l'auditeur, c'est inconcevable. Et il se met à grogner et interrompt le préclair, voyez. Les femmes pénibles? Les femmes pénibles? Qu'est-ce que tu me chantes là? Au lieu d'user joyeusement du TR4 et de continuer la séance, il se met à grogner comme un roquet. Fais du Q&A, toutes sortes de choses. Qu'est-ce que t'as dit? Où c'est que tu nous mènes ici? Qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi t'as dit ça? T'as un engramme ici? Qu'est-ce qui se passe? Et ainsi de suite. Autrement dit, l'auditeur essaye de comprendre. Vous comprenez? Le PC peut parfois vous mener dans une situation où vous essayez de comprendre. Et vous aurez alors du mal à auditer le PC. Pour une toute autre raison. Vous n'auditez pas les PC par télépathie. Et vous avez ce PC qui ne parle pas beaucoup, ou qui ne parle pas très fort, voyez, et vous dites au PC, très bien. Maintenant, quelle est ton opinion sur les femmes? Et le PC dit, Et vous êtes obligé de dire, qu'est-ce que tu as dit? Ne pas comprendre ce que dit le PC est un délit de première. Le PC vous met dans une espèce de situation où vous êtes amené à croire que vous ne comprenez pas le PC parce que vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'il dit. J'ai un remède très efficace. Vous savez, vous avez le PC qui bascule, roulé en boule, la tête sur la chaise, les lèvres collées contre la coudoire, et il dit Je ne cours pas le risque de provoquer une rupture d'ARC ni chez lui ni chez moi. Je dis assieds-toi. C'est ça, assieds-toi. Très bien. Maintenant parle. Mais le PC dit Et très bien. C'était quoi la réponse déjà? Les femmes, c'est pénible. Très bien, merci beaucoup. Vous voyez? Autrement dit, je fais en sorte que le PC me communique. Ce qui est peut-être plus difficile, mais vous vous rendrez compte que vous allez vous retrouver avec des ruptures d'ARC sur les bras si vous ne le faites pas. Vous devez courir ce risque. En d'autres termes, si vous le laissez dans cet état, vous finirez très vite par ne plus comprendre ce qui se passe avec le PC. Vous allez aussi avoir le sentiment de ne pas comprendre ce que fait le PC, donc vous ne pourrez pas observer ce qui arrive au PC et toutes sortes de choses vont aller de travers. Mais revenons à l'autre condition. Prenons l'auditeur incapable de dupliquer tranquillement une donnée sans queue ni tête. L'auditeur qui insiste toujours pour rester coincé sur un bouton. Et le PC dit « Les femmes, c'est pénible ». Et l'auditeur sait que c'est impossible. Et il a lui-même des tas de problèmes avec les femmes et sa réaction immédiate est « Pourquoi les femmes sont-elles pénibles? Qu'est-ce que c'est que ça? » Il va se mettre à discutailler et afficher le PC hors séance. « Tu me fais marcher, je te crois pas, ça n'a rien à voir. D'abord, comment en es-tu venu à cette conclusion? Je ne vois pas, dans le commandement d'auditing, ce qui a pu te mener à cette conclusion. » Et finalement, le PC dit, « Ben, c'était juste une cognition. » Et le gars dit, « Ha! Bon, c'était une cognition. » C'est quand même pas courant de dire un truc pareil, quand on y pense, tu sais. C'est pas courant. Juste une cognition. Et le PC dit, mais c'est juste une cognition, je t'ai juste dit une cognition, tu sais. 8h10. Bon, très bien. Et l'auditeur poursuit la séance, oui, et le PC dit « Mais tous les hommes sont stupides, hein, si on y réfléchit bien. » Et stupide, vous savez, c'est un bouton. Et l'auditeur dit « Stupide ? Qui ça ? Hein ? Qui ça ? Qui ça ? Qu'est-ce que ça dit déjà ?»« Tous les hommes sont stupides. » »« Pourquoi t'as dit ça ? T'as une image ? Qu'est-ce qui se passe ? Je veux dire, tu as une rupture d'ARC ? T'as des retenues ? Tu retiens quelque chose ? Est-ce que c'est ça que tu retiens ? Que tous les hommes sont stupides ? Qu'est-ce que tu veux dire par là exactement ? » Et ainsi de suite. Et le PC dit, mais c'est juste une cognition, juste une idée que j'avais. Oh, je suis désolé. Je suis désolé. Et vous avez alors un PC qui ne blora jamais rien. Vous avez un PC qui est puni pour avoir des cognitions. Un PC qui est puni pour s'être fait auditer. Donc un PC qui est puni pour vouloir se débarrasser de morceaux de banque. Et si vous auditez le PC dans cet état d'esprit, il n'aura jamais de gain. Parce qu'on lui apprend à ne jamais blower quoi que ce soit. Parce qu'il n'osera jamais mentionner quoi que ce soit. Et chaque fois qu'il ouvrira la bouche, il le regrettera parce qu'il ne rencontrera aucune compréhension. Il lève la tête, il voit l'auditeur qui essaie de comprendre, qui essaie de comprendre, qui essaie de comprendre, qui essaie d'entendre, qui essaie de voir de quoi il s'agit, de quoi il s'agit, de quoi il s'agit, d'où ça vient. J'ai l'auditeur qui essaie de comprendre, essaie de comprendre, essaie de comprendre. Et bien sûr, un auditeur qui en est à ce stade-là, est incapable de dupliquer ce que dit le PC. Mon Dieu, mais j'ai entendu des PC dire les choses les plus dingues. Bon, ça ne m'a jamais particulièrement déconcerté, mais de temps à autre, il est arrivé que quelque chose me prenne par surprise. Vous remarquerez que ce qui vous prend le plus au dépourvu, normalement, ce sont les overts et les retenues du PC qui vous concernent directement, ou qui concerne une personne proche ou aimée, vous savez. Ce genre d'overt et de retenue vous influence immédiatement. Eh bien, supposons que l'auditeur ait un niveau de duplication tellement bas qu'il se montre aussi réactif que vous lorsque le PC vient de vous dire une retenue énorme vous concernant. Vous savez à quel point vous pouvez être désarçonné quand il vous arrive d'entendre ce genre de retenue. Eh bien, supposons que l'auditeur essaie de comprendre. Où t'as entendu ça ? Il nous arrive parfois d'être projeté violemment hors séance, vous savez. Le PC dit j'ai une retenue. Je t'ai vu. Dit oui, qu'est-ce que tu as vu ? Bien, je t'ai vu au coin de l'allée l'autre soir avec. Tu sais très bien avec qui ? Eh bien, avec qui ? Avec qui ? Qui ça ? Tu m'as vu avec qui ? Oh, allez, tu le sais bien, pas la peine d'entrer dans les détails. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Où t'as entendu ça ? Je veux dire, tu m'as vu de tes propres yeux, tu étais là ? Il était quelle heure ? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont vu ? Vous voyez ? Vous êtes pris de court. Et vous allez poser plus de questions à ce sujet que vous n'en poseriez d'habitude pour un autre sujet. Vous essayez de comprendre parce que vous restez coincé sur un bouton qui vous concerne personnellement. Vous voyez ce que je veux dire ? Très bien. Maintenant, un auditeur qui ne sait pas dupliquer va auditer avec cet état d'esprit pendant toute la séance. Et pas seulement pour des choses qui le concernent, mais pour n'importe quoi. L'auditeur les accueille de la même façon, il leur réserve le même accueil. Le PC dit, il a fait beau aujourd'hui. L'auditeur dit, quoi? Où ça? Où ça, hein? D'où tu tiens ça? Ah, aujourd'hui, tu parlais d'aujourd'hui, pas d'hier. Oui, moi aussi, je trouve qu'il a fait beau aujourd'hui. Enfin, ce matin, très tôt ce matin. Bon, voyons voir, de quoi parlions-nous ? Oui. Le commandement de Heating était... Quel était le commandement de Heating, déjà ? Ah oui, ça y est. Est-ce que j'ai retenu quelque chose par rapport à toi ? Bon. Est-ce que j'ai retenu quelque chose par rapport à toi ? Faites très attention. Donc, quand vous avez des auditeurs qui ont un mal de chien à dupliquer un bulletin, qu'est-ce que vous devez en conclure ? Qu'ils ont sans cesse essayé de comprendre le PC, de comprendre les cas, qu'ils sont restés coincés dans toutes sortes de boutons démentiels et qu'ils sont en plein dans la première phase dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà le niveau où ils en sont. Vous voyez, s'ils ont le moral qui baisse parce qu'ils n'arrivent pas à réussir les examens qu'ils passent sur les bulletins, vous savez tout de suite ce qu'ils ont fait avec leur PC. Prenez. Donc l'éducation moyenne de la duplication est absolument essentielle. Et elle marche très bien. Maintenant, à vous de voir. Eh bien, peut-être que ce que je vous ai dit ici ne vous a pas paru follement passionnant. Peut-être que si. Naturellement, tout cela ne s'applique pas à vous personnellement. Mais c'est quelque chose que vous devez savoir si vous formez des auditeurs. Si pendant leur baptême du feu, les gens ont l'air si pâles et si tendus, c'est par exemple parce qu'ils dupliquent, alors qu'ils sont hérissés. Hein ? Ils passent par toutes sortes d'émotions. Ils apprennent des tas de choses, mais ils sont constamment hérissés par ce qu'ils entendent. Révoltant. Vous voyez ? Eh bien là aussi, ils passeront au travers. Mais parfois vous voyez un étudiant, pendant les 2 ou 3 premières semaines, il devient de plus en plus pâle, de plus en plus ombrageux, il a les yeux de plus en plus enfoncés, il devient de plus en plus maigre, son état empire de jour en jour, ou bien il est de plus en plus apathique. Vous pouvez reconnaître l'état d'un étudiant à la façon dont il démarre sa voiture. Vous pouvez reconnaître l'état d'un nouvel étudiant, il suffit d'écouter comment il démarre sa voiture. Au début, il démarre sa voiture d'une façon intriguée, pourrait-on dire. Ensuite, il va démarrer rageusement. Oui. Vous pouvez entendre les vitesses grincer 3 fois pendant qu'il remonte l'allée. Et puis finalement, il remonte l'allée en zigzagant, faisant des embardées dans le fossé des 2 côtés de l'allée. Et vous savez alors dans quel état il doit se trouver. Eh bien, tout cela relève de l'entraînement, de l'éducation. Et pas de l'auditing. N'allez pas considérer cela comme de l'auditing. Tout cela, nous y parvenons au moyen de l'éducation. Car il s'agit d'un nouveau talent. Très souvent, dans le passé, on vous a demandé de mémoriser les composantes de la structure d'un vaisseau spatial Mark 7 à gyrorotateur, le numéro de série de chaque pièce inclus. Je suis sûr qu'il vous a fallu faire quelque chose comme ça. Et le plus drôle, c'est qu'à la fin, vous étiez capable d'observer le vaisseau spatial. Quelqu'un vous dit, « Oh, tu sais, c'est Mark 7, il vole bas, hein, il vole très bas. » Vous dites, « Non, 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 pas du tout. Tu ne comprends pas vraiment ce vaisseau, tu sais. Tu ne sais pas comment il fonctionne. Non. Quand tu arrives à proximité de l'atmosphère, tu mets les refroidisseurs en route, tu vois. Tu ne ralentis pas le vaisseau au moment d'entrer dans l'atmosphère. Tu mets simplement les refroidisseurs en marche, de façon à rendre la coque hyper froide. C'est comme ça que tu t'y prends, tu vois. Et quand tu entres dans l'atmosphère, tu entres d'un bond. Tu vois, tu entres toujours d'un bond quand tu arrives. Et puis tu continues à pleine vitesse, tu vois, avec les refroidisseurs qui marchent à fond la caisse. Dirige-toi vers le sol à toute allure, sans perdre de ta vitesse, et là tout va bien. Et puis tes rétrofusées doivent être en excellent état et très bien réglées, pour ne pas gaspiller de fioul. Et comme ça, quand tu approches de la surface du sol, tu sais, avec ces Mark 7, tu dois vraiment les faire marcher à fond, les rétrofusées. Si tu les mets en route d'un coup sec et très rapidement, eh bien le vaisseau s'immobilise. Et alors, tu atterris à la perfection. Et la raison pour laquelle il y en a qui s'écrasent avec les Mark 7, c'est tout simplement qu'ils ne les comprennent pas. Et la personne vient vous voir atterrir avec un Mark 7, et vous n'atterrissez pas du tout de cette manière. Par contre, vous comprenez très bien le vaisseau. Vous savez comment le faire atterrir. Mais chaque fois que vous le faites atterrir, vous vous y prenez différemment. Vous n'atterrissez jamais 2 fois de la même façon. Pourtant, vous atterrissez à chaque fois sans la moindre casse. Et tout va bien. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais vous ne pilotez jamais le vaisseau de la même façon 2 jours d'affilée. C'est parce que vous le comprenez. La routine, en d'autres termes, ne peut pas remplacer la compréhension. Et j'essaye de vous amener à un certain point. J'essaye de vous amener au point où vous serez capable d'auditer en étant conscient, d'auditer en comprenant, d'auditer en faisant preuve de jugement. Et si je parviens à vous mener jusqu'à ce point, eh bien je considérerai que cela aura valu le coup, peu importe les difficultés rencontrées en route. Merci.